On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
C'est comme ça la véritable pizza napolitaine. La tomate, ça sera des tomates pelées de l'origine San Marzano, de la mozzarella de préférence, donc fior di latte de Agerola, qui est une mozzarella au lait de vache, et le basilic frais.
Des boules de toutes les tailles, tout juste produites du matin. Cette mozzarella, c'est la vraie. La mozzarella di bufala, tout simplement, parce que produite avec le lait de ses bufflones.
Par rapport au lait de vache, le lait de bufflone a des valeurs quasiment doubles. Pour produire un kilo de mozzarella, il faut seulement 4 litres de lait.
Andiamo a degustare la mozzarella su France Inter.
Buongiorno a tutti et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui les amis, notre émission prend l'accent napolitain, mozzarella et pizza. C'est le menu qu'on décline aujourd'hui avec notre ambassadrice de la cuisine italienne au sein de l'équipe dont on va déguster, Alessandra Pierini. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Comment ça va?
Benissimo, grazie.
Vous êtes à la tête, faut-il le rappeler, de l'épicerie Rap dans le 9e arrondissement de Paris. Mozzarella et pizza, disions-nous. La mozzarella, c'est votre passion, Alessandra. Vous la traquez, vous la vendez et vous la cuisinez même. La mozzarella, 10 façons de la préparer, c'est le petit livre charmant que vous venez de publier aux éditions de L'Épure. Vous allez même la cuisiner et nous faire goûter un cake incroyable. Oui, à base de mozzarella, saveur sucrée, il est là, pas très loin et on va pouvoir le goûter dans un instant. Il paraît que c'est bon, non?
C'est même super bon.
C'est même super bon. Eh bien écoutez, on va le confirmer tout à l'heure ou pas d'ailleurs. On est en train de rire autour de ce plateau. La pizza, c'est également votre passion, Alessandra. J'ai presque envie de dire notre passion, car nous lui consacrons un documentaire. La très très bonne pizza, c'est son titre, est diffusé aujourd'hui à midi sur Paris Première. C'est un film d'une heure, façon un peu road movie culinaire, qui raconte notre quête pour dénicher la meilleure pizza de France. Après en avoir sélectionné plus de 300, après en avoir testé 102, nous avons déniché, peut-être bien, la meilleure pizza de France. Son pizzaïolo est avec nous en ce dimanche. Emmanuel Cottet, bonjour.
Bonjour à tous.
Nous allons révéler dans le courant de cette émission, évidemment, le nom de votre pizzeria. On va tout savoir sur cette pizza. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est quand même extraordinaire, super bonne. Vous confirmez, Alessandra?
Oh, je confirme, absolument.
Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, notre libraire gourmande, Déborah Dupont, bonjour.
Bonjour.
Il y a décidément un parfum de vacances sur le plateau dont on va déguster.
Oui, pizza, mozza, Ibiza.
Ah ben voilà, un peu de soleil en plus de Naples, de la Campanie. On voyagera avec vous jusqu'au Baléares. Notre toque verte, Arnaud Daguin, bonjour.
Hello a tutti.
Comment ça va?
Ça va très très bien.
Alors, votre coup de lame?
Un coup de faux. Coup de faux. Peut-être de vrai. Faut voir.
Ah, je pensais que c'était l'arme de la mort.
Aussi.
Ah aussi, bon. On
je
voit ça avec
tout,
vous tout
moi,
à l'heure.
Vous savez, François Régis.
Aux manettes de l'émission aujourd'hui, Laurent Thomas, Théo Lacombrade, Nadia Chougui. Pour les recettes, les infos, le podcast de l'émission, franceinter.fr, à la page On va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, On va déguster.
Benvenuti, siamo nell'osteria su Matera di Somma Vesuviana, che fa parte del Parco Nazionale del Vesuvio.
Mon adresse de la semaine s'appelle Somma Terra et ça se situe assez logiquement en Campanie, une osteria que nous avons eu la chance d'expérimenter ensemble, Alessandra, il y a quelques jours. Dans quelle ville exactement?
Somma Vesuviana.
C'est ça.
Qui est vraiment dans le parc national du Vésuve, qu'on peut rejoindre donc à partir de Naples par la Circumvesuviana, qui est le train, un petit train,
c'est ça,
qui est très facile
c'est
à prendre.
C'est à l'ouest de Naples.
C'est ça, on y arrive en train et après on marche un tout petit peu et on va de ce petit paradis.
Somma Terra, on peut dire que cette table a les pieds dans la terre. Imaginez quand même, ça va vous plaire Arnaud. Une ancienne ferme, une auberge où l'on déguste ce que l'on pourrait appeler une cucina contadina, c'est-à-dire
exactement,
une cuisine campagnarde, traditionnelle, uniquement réalisée à partir de produits estampillés slow food, cette fameuse association italienne qui défend les modes de culture et d'élevage extensif.
International.
La biodiversité, évidemment, mais elle a des origines bien sûr italiennes. Maintenant, elle s'est répandue dans le monde entier et c'est une bonne nouvelle. Elle défend les variétés, les races anciennes, etc. Et au déjeuner, un menu del giorno avec antipasto, primo, secondo, dolce e vino. On peut pas entrer dans les détails, mais alors, on a quand même dégusté un ou deux plats qui valent vraiment le détour. On citera d'abord en antipasto une parmigiana.
La parmigiana d'aubergine, de melanzane, donc qu'on a mangé en entrée et qui était vraiment délicieuse. Surtout que ça représente bien le coin, qui est un petit peu le potager du Vésuve. On a pu voir énormément de producteurs qui nous ont présenté leurs merveilles. Et cette aubergine était frite d'abord. À Naples, on la passe un tout petit peu dans la farine pour qu'elle se gorge un peu moins d'huile. Ensuite, elle est montée à un étage, en couche, avec une très très bonne sauce tomate bien savoureuse, du basilic, un petit peu de parmesan et aussi de la provola ou du provolone, donc qui est une mozzarella un peu plus sèche, un peu plus affinée, qui permet de couler mais sans regorger d'eau le plat, et donc qui fait aussi un plat vraiment exceptionnel et délicieux.
Aubergine à la parmesane dont on vient d'avoir, vous nous avez rappelé la définition et c'était un plat absolument délicieux. Et moi je me souviens d'une pâte qui m'a laissé vraiment un souvenir émouvant, les paccheri con stoccafisso alla vesuviana. C'est des paccheri, alors vous voyez ces grosses pâtes, hein, vraiment typiquement napolitaines, en forme de tube, fabriquées avec des blés anciens du Vésuve quand même, d'une très belle fabrique.
Fabrique qui s'appelle Spiga Bruna, qui est une fabrique bio qui se trouve sur la plaine au pied du Vésuve.
Et la sauce, mais alors cette sauce, c'était une sauce avec le stoccafisso, alors c'est l'équivalent italien du stoccafisso. Absolument, hein. Donc morue, séchée, dessalée, comme on avait l'habitude d'en manger en Campanie, mais également dans le pays niçois, en Ligurie, et ailleurs.
Surtout.
C'était un peu un poisson du pauvre, en quelque sorte.
Oui, aussi qu'on pouvait garder longtemps.
C'est ça, et qu'on pouvait garder longtemps, bien sûr, ça se conservait. Ce ragoût, il était fait avec beaucoup de tomates, il y avait une sauce qui avait vraiment, avec un peu d'olive aussi, de l'huile d'olive.
Capre aussi,
il y avait aussi quelques capres, et c'était vraiment une sauce qui avait des reflets cuivrés tellement elle avait mijoté.
Oui, bien
et
confite.
Elle enrobait parfaitement ses paccheri. C'était vraiment une pasta deliciosa. Et il y avait un dessert, oulala, ricotta, avec une petite confiture.
Confiture du coin, donc c'est la confiture des abricots Pellecchiel. C'est une variété qui est une sentinelle slow food dans le Vésuve. Et je vous garantis des abricots vraiment exceptionnels. Vraiment,
des
ça vaut le coup de la goûter au moins une fois dans sa vie. Ça.
C'était vraiment un dessert ménager, un dessert champêtre.
Facile.
Absolument incroyable. Que des produits
mémorable.
Locaux, évidemment. Menu très copieux, avec la totale. Il y a même le vin qui est compris dedans à 30 euros. Et tout ça, ça se passe à Sumatera, dont vous nous rappelez l'adresse, Alessandra
Pierini. L'adresse,
Pierini.
C'est Piazza Santa Maria del Pozzo, donc à Somma Vesuviana. Allez-y, pour un dimanche à la campagne, c'est super.
Exactement. Dans un instant, on reste en Campanie et on croque à pleines dents dans la star de l'été, la mozzarella. Tout ça, ça se passe juste après Barbara Carlotti, Voir les étoiles tomber, choisi par Giubacca. Buon appetito sur France Inter.
J'avance sans peur dans la dead zone de toute la peur tenir aux choses. À marcher seul sur le volcan, le feu déclenche parfois le vent. Le doute est un collier. Ne prenons plus les eaux.
entendre demoiselle rondeur appétissante moulée de blanc virginal, une belle italienne qui a su nous séduire. On l'aime pour sa candeur, sa souplesse, pour son délicat grincement sous la dent, pour son parfum, pour sa magnifique entente avec l'émeraude du basilic et la tomate au rouge feu.
Une description sensuelle de la mozzarella, ce sont les premières lignes de la mozzarella, 10 façons de la préparer que vous venez de publier, Alessandra Pierini, aux éditions de L'Épure. Alors la mozzarella, évidemment, incroyable, invention fromagère. Je vous propose d'entrée de jeu qu'on aille tout de suite voir de plus près cette perle blanche. Nous sommes allés ensemble au sud de Naples, Alessandra Pierini, à Pestum.
À Pestum, c'est ça.
Pas loin de la mer. Chez Riva près. Bianca, c'est l'un des nombreux caseifici de Campanie. Rappelez-nous ce que c'est qu'un caseificio.
Caseificio, c'est le lieu où on fabrique le fromage, une fromagerie.
C'est ça. Et de bon matin, nous avons assisté à la fabrication de la mozzarella. Et on a même eu la chance de déguster une mozzarella qui sortait tout juste de son bain vers 8h du matin avec les deux patrons de Riva Bianca, Rosa Maria Wadig et son mari Gennaro D'Alessio. Andiamo.
Allora, adesso abbiamo davanti una bellissima mozzarella che è appena uscita, che dobbiamo mangiare subito.
Là, nous sommes en présence d'une mozzarella fraîche qui vient appena d'être faite.
Dove abbiamo un coltello.
La prima cosa da vedere è la caratteristica, è bianco porcellana.
Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'elle est blanche, mais d'une blancheur porcelaine luisante. Assez incroyable, on a envie vraiment de la toucher. Elle a été donc découpée. À l'œil, elle ressemble à une pâte feuilletée. À l'intérieur, il y a énormément d'eau. Elle contient par la loi donc 66% d'eau. Et cette eau avec le lait qui est gardé dans la mozzarella, une fois qu'elle est ouverte, il coule tout de suite dans l'assiette. Donc on dirait qu'elle baigne un petit peu dans ce liquide blanc immaculé.
Et la température de dégustation?
Elle est conseillée qu'elle soit à la température où on aime boire généralement son verre d'eau.
Extraordinaire. Celle-ci, elle a été fabriquée quand?
Il y a 5 heures, elle était encore lait dans le puits de la Bufflone. Ça, c'est vraiment la merveille de la mozzarella de bouffe à la campana de EP.
On peut la goûter?
Allora, per assaggiarla, io dico sempre una mozzarella grande va mangiata almeno.
Donc ça, on est en train de nous expliquer qu'elle est trop fraîche.
Alors, le moment idéal pour pouvoir goûter une mozzarella qui vient d'être faite, après, ça dépend un petit peu de la taille. Ça, c'est une mozzarella qui n'est pas salée dans la pâte, elle est salée dans ce qu'on appelle le liquide di governo, ce lait blanchâtre dans lequel elle est gardée. Donc, on peut imaginer qu'il lui faut un petit peu de temps avant d'absorber le sel nécessaire pour qu'elle soit bonne à être mangée.
On peut quand même essayer. Tu goûtes?
Avec plaisir. J'ai envie même de faire du bruit parce que elle a beaucoup de résistance sous la dent. Mais en même temps, le fait qu'elle soit résistante, elle permet au lait de ressortir et on a en fait plein de lait dans la bouche.
Elle est un peu spongieuse. Mais le goût du lait.
Mais le lait, c'est incroyable. Donc il y a un côté acidulé justement et doux aussi en même temps avec deux consistances. Une plus ferme et l'autre plus liquide en fait. Il n'y a pas encore le crémeux.
Grazie, merci beaucoup. Dégustation matinale de mozzarella au caseificio Riva Bianca. On est au sud de Naples. Précisons que cette fabrique de mozzarella a une qualité assez exceptionnelle, celle notamment de travailler le latte crudo, le lait cru
de Bufflone.
Ce qui est loin d'être le cas de tous les caseifici.
Ah oui, non, c'est même très rare. Avant, c'était bien sûr que comme ça. Mais maintenant, vu la demande qu'on a de mozzarella, surtout là, on est en train de parler de mozzarella de Bufflone. Hein.
Oui.
Donc ce caseificio aussi a son élevage de Bufflone. Et donc, ils travaillent le lait cru. Donc, leur mozzarella aura un goût, bien sûr, très particulier et assez exceptionnel. Et la mozzarella se garde beaucoup moins longtemps.
Et drôle d'expérience que de consommer cette mozzarella juste après sa fabrication. Pour ainsi dire, personne n'a l'occasion de le faire, puisqu'elle n'est pas encore assez mature, entre guillemets.
Ça, d'ailleurs, on nous l'a déconseillé même de la goûter. Hein. Les producteurs, ils voulaient qu'on attende, qu'on goûte éventuellement celle qu'ils avaient sortie quelques heures auparavant. Donc, effectivement, elle ne ressemble pas vraiment à une mozzarella qu'on a l'habitude de déguster.
Avant d'entrer dans le détail de la mozzarella, vous connaissez le sujet par cœur, évidemment, Alessandra Pierre. Ballerini, tordons le cou à une idée fausse. On pense souvent que plus une mozzarella est fraîche, plus elle est moelleuse, alors qu'en fait c'est l'inverse.
C'est absolument l'inverse. C'est plus elle est fraîche, plus elle est résistante, plus elle est assez élastique. Je dirais même, celle qu'on a goûtée, elle était même caoutchouteuse. Elle n'est pas très très agréable à goûter. C'est une expérience, mais ce n'est pas un régal.
Et après ce côté caoutchouteux, le lendemain, lorsqu'elle a un peu reposé dans son liquide de conservation, là elle devient ferme.
Légèrement élastique et résistante, donc il n'y a plus cette espèce de caoutchouc sous la dent. Et donc, elle commence à prendre vraiment, à 24 heures après, son goût exceptionnel, et le goût qu'on a envie d'avoir dans en bouche. Elle le garde encore pendant 2 jours, et c'est après qu'elle commence à vieillir, entre guillemets, et qui commence à devenir plus moelleuse, plus souple,
voire,
et crémeuse.
Gentiment ramollo.
Et ramollo, ramolli.
C'est quoi la vie d'une mozzarella comme ça, par exemple? Son point optimum, il est à combien de jours après la fabrication? Et puis quand est-ce que ça commence à dégringoler?
Alors, tout dépend de la façon de la fabrication. Il y a des mozzarella qu'on peut manger dans les 6 jours, il y a des mozzarella qu'on peut manger au bout de 20 jours. Tout dépend si c'est fait au lait cru, au lait pasteurisé, si elle est salée dans la pâte, si elle est salée dans la saumure.
Eh bien justement, Arnaud Daguin, je vous propose une expérience.
Certes.
Alessandra Pierini nous a réservé un petit atelier dégustation. Vous avez chacun autour de ce plateau une assiette avec 3 éclats assez blancs, même si on va voir que le blanc peut avoir
des nuances
un peu différentes de gauche à droite. Précisons que nous avons 3 provenances, évidemment, 3 façons de faire. Je propose à Emmanuel Cotet, qui est censé bien connaître la mozzarella, puisqu'on va voir tout à l'heure que c'est un pizzaiolo d'exception, qui pratique donc la mozzarella sur ses,
ses
pizzas.
C'est un produit qui est forcément hyper important pour nous et qui suscite beaucoup d'heures de sourcing et de travail pour chercher vraiment la très très bonne mozzarella. Ouais.
Alors vous en avez 3 apportées par Alessandra Pierini sous les yeux. Qu'est-ce qu'elle vous inspire comme ça visuellement?
Déjà on a une différence de couleur parce qu'on a visiblement une mozzarella au lait de vache également, une fière dilatée.
Comment si vous faites la différence uniquement à la couleur?
Là pour le coup on est sur quelque chose d'un peu plus jaune, effectivement.
Ouais. On parle de la mozzarella qui est tout à gauche de l'assiette. Ouais. Qui est plus ivoire.
Moins porcelaine, parce que dans le lait de vache, il y a du bêta-carotène qui colore la pâte, chose qu'il n'y a pas dans le lait de bufflone. C'est pas un défaut.
La bufflone est un bovidé complètement noir qui fait des mozzarella d'une blancheur de porcelaine incroyable. Joli contraste. Donc ça, vous l'avez reconnu à l'œil. Il s'y connaît un peu, le garçon, ça va. Et ensuite, qu'est-ce que vous diriez? Faut peut-être goûter, non?
Là, forcément, faut goûter.
Allez-y.
C'est obligatoire. Alors, j'y vais avec les doigts parce que c'est quand même meilleur comme ça.
Là, vous avez pris laquelle? Eh oui, vous avez la bouche pleine, mais c'est pas grave.
Commencez par la fleur dilatée.
Alors, fleur dilatée, précisons que c'est donc fleur de lait en français.
Fleur
et
de
c'est
lait,
toujours
c'est
une mozzarella faite avec du lait de vache.
Lait de vache. On l'appelait fleur dilatée justement parce que la mozzarella, avant, c'était uniquement celle au lait de bufflone.
Et elle est faite dans plein d'endroits différents d'Italie.
Plein d'endroits différents. Maintenant, on essaye de caser ce fromage dans les régions de production initiales, qui sont celles de la péninsule méridionale de l'Italie, donc entre la région de Naples, un petit peu la Pouille, la Basilicate, le Molise, et un petit peu la Sicile, parce que c'est vrai que ce sont les endroits où il y a le terrain qu'il faut pour ça.
Et celle-ci vient d'où?
Et celle-ci vient du Molise.
Du Molise.
De la région du Molise.
Et vous nous situez le Molise sur une botte italienne.
Ah oui, c'est la région qui est juste derrière la Campanie, si on veut, aux épaules de la Campanie, qui est entre les Abruzzes et les Marches.
Très bien. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette fleur dilatée, Emmanuel Cotet?
C'est la douceur du lait de vache, forcément, on a vraiment quelque chose d'assez assez doux. C'est une mozzarella que nous, en tant que pizzaiolo, on utilise souvent en cuisson, parce que forcément elle a un côté à queue qui est un peu moins prononcé que sur la mozzarella du buffalo.
Elle lâche moins d'eau
sur
une pizza cuite.
Tout à fait, tout à fait. Et là, elle est magnifique.
Les 2 autres extraits, les 2 autres grosses lamelles de mozzarella dans votre assiette. Donc là, on passe à la bufala. Et dites-nous quelle différence vous feriez entre le goût du lait de vache et le goût du lait de bufflone.
Le caractère est complètement différent. C'est pas forcément la même utilisation qu'on en fera.
Oui.
C'est pas forcément le même goût. Moi, pour moi, ces 2 produits ils sont différents. Même si la production, elle est quand même rendement identique quand les gens travaillent bien, en tout cas. Et là, pour le coup, ouais, c'est magnifique.
Troisième, là, on est aussi. Troisième. Il y a une troisième mozzarella, mais on va voir qu'il y a une petite nuance entre les deux. Il s'agit à nouveau de mozzarella di bufala. Voilà.
Là, on a une acidité qui est un peu différente. Je pense que c'est l'utilisation des ferments qui doit être aussi pas les mêmes, forcément. Et du coup, on a vraiment une acidité qui est un peu propre. Et ça dépend vraiment des caseficcio à chaque fois.
Arnaud Daguin.
On a entre ces trois magnifiques produits, hein, que, vraiment. On a un delta de sel sur les trois, qui est notable, mais ça, c'est, je pense, c'est la façon de le faire, hein, c'est la manufacture, c'est des choix. Et puis, on a surtout, je trouve, une différence de texture absolument extraordinaire. C'est, on est vraiment dans trois mondes différents. Hein. Et c'est celle, la première des deux bouffales qu'on a goûtées là, qui m'intéresse le plus, moi, en termes de texture et de ressenti en bouche, parce que elle vous fait vivre un petit voyage. Elle lâche un peu de lait, elle cède de façon complètement différente. Mais c'est celle que je préfère des trois.
Il parlait de sel, Arnaud Daguin, c'est intéressant.
On parlait de sel, oui, justement. Et Arnaud est en train de dire qu'il préfère la première des deux bufala qu'on a goûtées. Donc c'est celle qui est fabriquée à côté de Pestum, donc du Caseificio Riva Bianca, qui est la plus douce, oui. La moins salée, la plus onctueuse. Et en fait, j'ai constaté avec ma boutique qu'en fait, c'est le goût des Français. La mozzarella que les Français préfèrent. Celle qui est un peu plus laiteuse.
Je viens de la goûter, elle est fameuse. On sent une légère croûte.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire? Comme une espèce de petit feuilletage. Est-ce que c'est signe d'une bonne qualité?
C'est ça, bien sûr. Il faut qu'il y ait une croûte. D'ailleurs, la croûte, elle la forme au moment où on la sort de l'eau bouillante et on la plonge dans l'eau fraîche. Donc, il y a cette croûte qui se forme et qui compacte et qui garde donc le lait à l'intérieur.
Et si on a de très belles tomates de variété ancienne, c'est bientôt la saison, évidemment. On va dans le potager, on en cueille quelques-unes, on en achète de très bonnes, bien sucrées, juteuses, pulpeuses. Sur l'étal de votre marché, vous privilégiez quelle mozzarella avec ces tomates?
Bon, disons que toutes les mozzarelles sont bonnes avec la tomate. Hein. Voilà, là, après, c'est un peu une question de goût personnel. Mais moi, quand j'ai vraiment une super bonne mozzarella, là, j'aime bien la manger presque nature. Toute seule, nature comme ça, peut-être en filet d'huile d'olive. Mais voilà, c'est comme ça que je me régale vraiment.
Donc, on l'a choisi de préférence fraîche, on l'a compris, cette mozzarella. Est-ce que c'est compliqué de la trouver en France fraîche?
C'est de moins en moins compliqué parce que, bien sûr, il y a une demande tellement importante que les transports, donc même les fromageries italiennes se sont organisées pour qu'il y ait des transports assez rapides. Et après, c'est une question un peu d'organisation. Il faut essayer d'avoir la mozzarella au plus tard dans les 2-3 jours après le moment de la fabrication. Sinon, on demanderait un voyage en avion, donc ça serait quelque chose d'impossible à la vente, quelque chose de trop cher. Mais pour un transport réfrigéré, il faut compter 2-3 jours du moment où elle a été produite.
Précisons que la mozzarella di bufala, à condition qu'elle ait l'appellation Campana accrochée à ce nom, est protégée par une dénomination di origine protetta. Ça veut dire que c'est l'équivalent de notre AOP.
Absolument, c'est tout à fait ça. Et je conseille toujours de choisir cette mozzarella parce que le cahier des charges est très strict. C'est un lait qui provient donc des bufflones qui sont élevés uniquement dans les régions de production, qui sont donc celles du sud de l'Italie, surtout la Campanie, un petit peu le sud. On a vu du Latium et une partie des Pouilles. Donc c'est dans cette région qu'elle est la meilleure parce que les bufflones, elles mangent ce que le terroir donne, qui est du foin, de la paille. Et c'est là où elles se sentent le mieux et c'est là que le lait a un meilleur goût pour ce fromage.
Est-ce qu'il y a un poids officiel de cette mozzarella?
La mozzarella de bufala, par le cahier de charge, elle peut être de 10 grammes jusqu'à 800 grammes.
D'accord, donc il y a une gamme assez diverse.
Assez diverse, c'est ça. Et par contre, on peut fabriquer des tresses de mozzarella, comme on a vu, qui vont jusqu'à 3 kilos. La tresse, elle supporte donc un poids beaucoup plus important parce que c'est le fait qu'il y a plus de peau. Donc la peau est plus résistante et il y a un maintien donc, de tout ce qui est lait, les fibres, la pâte filée intérieure qui peut être gardée même sur un poids plus important.
Il y a une vraie différence de texture entre les boules et les tresses. Ouais, ouais.
Et comment vous l'évaluez, cette texture?
En fait, ça va dépendre comment on veut la travailler, mais c'est vrai que par exemple, moi je sais que je travaille pas mal plusieurs formats de mozzarella, et notamment la tresse de 3 kg pour la margherita, parce que c'est le côté pâte filée qui ressort vraiment différemment.
Et que pense Arnaud Daguin de la mozzarella?
Sur France Inter, on va déguster.
Mozzarella, vous écriez-vous en contemplant la pizza encartonnée que vient de vous livrer un fringant cycliste. Eh bien, vous vous leurrez, car je peux vous l'affirmer, François-Régis, Mozart n'est pas là. C'est Mozzarella qu'on assassine, hélas. Le crachat blanchâtre gisant à la surface de votre galette chichement tomatée n'est pas de la mozzarella. Ce n'est même pas du fromage, ni même un produit laitier. Ça n'a jamais vu le cul d'une vache. C'est du fromage analogue. Ah, analogue. En voilà un mot formidable. Composition, huile, gélifiant, colorant, conditionné en vrac sous forme de billes. Pas besoin de congeler, c'est du plastoc. Ça pourrit pas, ça nourrit pas non plus, tu le chies tel que tu l'as ingéré, au mieux tu récupères un peu d'énergie, au pire ça te pollue durablement. Rien de vivant ne s'est passé dans ton ventre, aucun microbe n'a fait de déplacement pour venir enrichir ta population bactérienne. Zéro transmission entre le vivant du monde et ton vivant à toi. Pas la moindre passerelle entre les microbiotes végétaux ou animaux et le tien. À propos, saviez-vous que nous sommes composés de plus de microbes que de cellules ? Nous ne sommes jamais seuls. Jamais seuls, c'est d'ailleurs le titre du passionnant bouquin de Marc-André Sellos, paru chez Actes Sud, à lire absolument.
Et dont vous avez déjà parlé abondamment.
Et c'est pas fini. Bref, avec le fromage analogue, on quitte le domaine de la nutrition pour entrer dans celui de la performance plastique. Pourquoi il marche si bien ce produit pas vivant ? Il marche parce qu'il file. Il file dur même, il fait du câble, de la tyrolienne, du téléphérique. En publicité, l'appétence d'une pizza se mesure à l'élasticité et à la longueur de ses fils. Pour résumer, l'analogue n'est bon qu'à se faire tirer, même si à la fin c'est lui qui vous encule. D'ailleurs, dans analogue, il y a d'abord anal. Coïncidence ? Je ne crois pas. Voyez-vous, mon cher François-Régis, le seul fil dont nous avons besoin, c'est le fil du vivant. C'est le vivant qu'il nous faut pour rester vivants nous-mêmes. Pas des trucs morts, isolés, fractionnés, bétonnés, transformés, stérilisés, conditionnés, stockés. Tout ça, ça nous crève. Notre belle industrie, très performante, on la veut au service du vivant. C'est la flûte enchantée qu'elle doit jouer, pas du pipeau de synthétiseur. Comme ça, on pourra dire que Mozart est là. Mozart, il est là quand le fil ne s'est pas rompu entre le vivant du sol, les bactéries, les champignons, les vers de terre, la plante, la vache qui s'en nourrit, le lait qu'elle nous donne, les produits qu'on tire de ce lait et qui composent notre corps. Le grand opéra du vivant doit battre son plein jusque dans nos intestins. Encore faut-il remettre le vivant partout dans nos campagnes. Et ça, c'est un peu mon taf quand je cause pas dans le poste. Aussi étonnant que ça puisse paraître, les paysans, les producteurs et même les coopératives que je côtoie sont tous optimistes. En ces temps de crise, d'interminables cacophonies, de récriminations, d'imprécations, de diatribes sur les enjeux de l'alimentaire, les seuls acteurs que je vois sourire et qui ont le moral et qui jouent juste sont les acteurs du vivant. Qu'ils soient petits, gros, de droite, de gauche, bio, pas bio, en circuit long, en circuit court, quelquefois même en court-circuit, ils ont en commun le fait d'avoir compris que toutes les valeurs que nous voulons dans notre alimentation sont issues de la fertilité d'un sol vivant. Ils sont innombrables, les services que rend la fertilité, et ils sont de tous ordres, écologiques, climatiques, nutritionnels, énergétiques, économiques, sociaux et même culturels. Alors, au diable l'analogue, soyons réalistes, demandons la version originale, exigeons du vivant et exaltons-nous à juste titre, Mozart est là.
Bon, d'accord, et le cuistot, il est où?
Il est là aussi. Talo, talo, talo. Le talo, c'est la pizza basque, François-Régis.
Mais oui, on connaît.
Une pizza dont la pâte est faite avec de la farine de maïs, mais pas n'importe quel maïs, du grand roux basque. Bien vivant. Alors pour que ça marche, malgré l'absence de gluten dans la farine de ce maïs formidable, il y a un truc, une manip. Oh, rien de sorcier, vous allez voir. 650 g d'eau, 5 g de sel de mer, 10 g de votre gras préféré, olive, canard, cochon, beurre, comme vous voulez. Vous mettez tout ça à bouillir et vous le versez sur 400 g de cette goûteuse farine dans une grande casserole où vous allez cuire ce mélange à feu très doux jusqu'à ce que votre spatule en bois soit nickel. Nickel, comme pour la panade de pâte à choux, n'est-ce pas? Voilà, la seule différence, c'est qu'on doit façonner les talots avec la pâte encore chaude. Une boule aplatie à la paume de la main sur du bois fleuré à la farine, ou mieux encore à la semoule de ce même maïs. Ensuite, on pourra les garder au frigo, mais le mieux, c'est quand même de faire tout en suivant. Les talots se cuisent à la plancha ou à la poêle, puis se garnissent de ce que vous voudrez. Fromage, jambon, ventrèche, légumes de tout poil, et se finissent au four. Voilà. Allez, jouez juste et vivez joyeux.
Merci Arnaud Daguin pour cette dénonciation en règle de la mozzarella industrielle quand même, de la mozzarella moulée au Danemark avec du lait néo-zélandais, il paraît que ça existe. Est-ce que c'est de la mozzarella pour vous, Alessandra Pierini, même si je suis à peu près sûr de connaître votre réponse?
Non, malheureusement, on utilise ce nom, mais c'est pas quelque chose que je désire goûter ou déguster. Mais malheureusement, c'est l'ennemi numéro un, toutes ces pseudo-mozzarelles qui sont fabriquées ailleurs et que l'on utilise dans la junk food souvent, dans des produits très très bas de gamme et qui ne ressemble à rien au vrai fromage qu'on fait en Italie, dans le sud de l'Italie.
Il est possible de trouver des mozzarella convenables au supermarché. Il y en a même qui portent le petit macaron
qui indique
la DOP.
Et aussi vraiment le macaron avec le profil de la bufflone qui est vraiment l'indication de la mozzarella de bouffe à la campagne à DOP. Donc ça aussi, qu'il faut qu'il y ait les deux macarons. Et on peut trouver maintenant des produits vraiment convenables parce que je pense qu'il y en a tellement la demande qu'il est nécessaire qu'on fasse un peu quelque chose et qu'on propose aussi des bons produits.
On a des réactions de nos auditeurs qui nous demandent ce qu'est une bufflone. Déjà, c'est la femme de qui, la bufflone ?
Du buffle.
Du buffle, c'est ça. Allez, petite précision zoologique sur la bufflone qui donne effectivement ce lait. On a dit que c'était un bovidé de couleur noire qui serait originaire d'Asie.
C'est originaire d'Asie. Elle est arrivée en Italie grâce aux Sarrasins, donc qui l'ont importé dans le Moyen-Âge, en passant par la Sicile. Donc c'est d'abord en Sicile qu'elle est restée pendant quelques centaines d'années, en fait, avant d'arriver dans la région de Naples, dans laquelle elle était vraiment à l'aise. C'était vraiment son habitat naturel parce que c'est une zone très marécageuse. Et il faut rappeler que la bufflone, elle est un peu comme l'hippopotame. Elle n'a pas les glandes donc, pour pouvoir transpirer. Donc, elle a besoin de rester dans l'eau tout le temps.
Et de se rafraîchir. On les a vus, ces animaux, chez Riva Bianca notamment. Ils sont vraiment, ils passent une grosse partie de leur journée dans l'eau.
Oui, elles sont tranquilles. Elles se disputent un petit peu de temps en temps. Donc, ça fait un peu peur parce qu'elles sont imposantes. Mais en général, ce sont des animaux assez tranquilles. Et c'est toujours cette même race qui produit aujourd'hui le lait pour la mozzarella de bufflone. Il n'y a pas eu d'autres croisements.
D'où ces cheptels noirs qu'on voit un peu partout dans les routes de Campanie. Le suspense a assez duré par rapport à votre mozzarella cake. Là, c'est vraiment une prouesse que vous avez mise au point, totalement inventée à l'occasion de l'écriture de La mozzarella, 10 façons de la préparer aux éditions de l'Épure. Est-ce que ce gâteau de couleur blonde peut circuler autour de ce plateau? Allez, Déborah, c'est vous qui allez goûter. Vous êtes notre spécialiste du sucré. Allez, Sandra, dites-nous.
Cette tarte, en fait, qui a la consistance un peu d'un gâteau yaourt, si on veut, assez classique, elle est faite à partir de farine de noisette. Bon, dans mon cas, ça sera des noisettes du Piémont, avec de la mozzarella que j'ai utilisée. Ça, c'est du fior di latte, donc de la mozzarella de vache, que j'ai mélangé avec un tout petit peu de lait. Je l'ai monté au batteur un peu pour avoir une consistance un peu de crème, un peu de mousse. Et en fait, je l'ai utilisé pour aromatiser cette tarte dans laquelle il y a aussi 3 œufs, un petit peu de sucre et vraiment quelques gouttes d'huile, une huile un petit peu neutre pour faire le crémeux.
Qu'est-ce que tu en penses, les amis?
Déjà, il y a une noisette absolument incroyable.
On est d'accord.
Hein. C'est la tonda gentile del Piemonte et la mozzarella donc laisse, moi je trouve, ce moelleux, ce crémeux.
C'est un moelleux qui n'est,
c'est
pas gras.
Folie,
ouais.
Qui n'est pas gras du tout.
Emmanuel Cotet,
c'est une folie. Ouais.
On est d'accord. Ouais. On est d'accord.
Très bon. Une texture très humide. En fait, effectivement, c'est indécelable de se dire qu'il y a de la mozzarella dedans.
Voilà,
on sent vraiment
elle
la noisette.
Elle est bien cachée et en fait, elle est bien là et elle sert pour donner cette onctuosité, cette texture.
Peut-être que, comme disait ma grand-mère Lucienne, on la trouverait de manque si elle n'était pas là.
Absolument, voilà, l'intérêt de cette mozzarella dans le mozzarella cake, dont la recette figure sur franceinter.fr à la page on va déguster. Et ça donne un truc carrément exceptionnel. Je suis sûr que ce gâteau va avoir beaucoup de succès auprès de nos auditeurs. Pendant la saison estivale, dans un instant, on lève enfin le voile sur la meilleure pizza de France, signée Emmanuel Cotet qui est avec nous. On sait qu'on va partir quelque part en banlieue parisienne. Mais tout de suite, c'est Beyond de Léon Bridges sur France Inter.
Don't wanna get ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality in everything. Brings me to my knees, oh, she's
tied me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me. Oh, do you think I'm being foolish if I don't love you? Might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything. Beyond, I wanna bring her round to meet you. Thinking like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own. She makes me feel at home. Oh, do you think I'm being foolish if I don't? She might fit. She might just be my everything. Beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything. Beyond, I give up. I'm in love. Trying, I'll take.
L'appétit vient en écoutant. On va déguster sur France Inter.
Elle a une belle allure. Il y a un très beau bruit de croustillant qui est superbe. C'est prometteur. Hein. La tomate est parfumée et surtout la pâte est croustillante. Alors c'est peut-être pas la vraie napolitaine, mais moi je dois dire que j'aime assez ce croustillant. J'ai un bon coup de cœur.
La mozzarella, la température ambiante, elle est pas cuite. Ça c'est...
Ça te gêne ?
Ça, c'est original. Non, tu sens beaucoup le goût de la mozzarella, en fait. Elle est délicieuse.
Il y a une explosion en bouche. On a tous les ingrédients en même temps, dans la même bouchée.
C'est rare d'avoir une pizza aussi fine et généreuse. Et
indiscutablement, il y a une vraie recherche. Les produits sont d'exception. Je suis bluffé.
Alessandra Pierini ici présente et Alain Cirelli dans le rôle des deux experts qui m'ont accompagné à la table de plusieurs dizaines de pizzerias dans une trentaine de villes pour dénicher la meilleure pizza de France. On en a sélectionné près de 300, on en a dégusté 102. On a fait une enquête de 6 mois et de cette enquête est né le film La très très bonne pizza, diffusé aujourd'hui à midi sur Paris Première. Et cette très très bonne pizza qu'on estime être la meilleure de France, celle qu'on considère comme, on va dire, la plus réussie, ou celle qui nous a créé le plus d'émotions.
Oui, c'est ça. Et puis, bon, vu qu'on en a goûté vraiment beaucoup, ça fait test. C'est quand même quelque chose qu'on a vraiment constaté.
Et c'est celle que nous dégustions dans l'extrait que l'on vient d'entendre. Elle nous a bluffé, dit Alain Cirelli, c'est la pizza d'Emmanuel Cottet. Merci d'être avec nous.
Merci beaucoup. Merci.
Qu'est-ce que ça fait d'être le lauréat de ce classement qu'on a entrepris ?
Forcément, ça fait plaisir parce que ça fait 10 ans que j'ai le projet, que je bosse dessus. Et ça fait 4 ans qu'on trim avec mon équipe sur la qualité, sur toujours la recherche d'avoir les meilleurs produits, de les faire déguster. D'être hyper didactique parce que forcément la pizza elle a vécu des mauvais moments avec la course à la rentabilité et
parce que autres. La pizza en France, c'est vrai qu'on s'est un peu intéressé au panorama, c'est quand même 745 millions d'unités consommées chaque année, ce qui fait quand même des Français les deuxièmes consommateurs de pizza au monde.
Tout à fait. Après les États-Unis.
Mais devant les Italiens. Ouais. Simplement, on parle pas de qualité. Et souvent, la pizza, c'était quand même ce truc un peu de junk food qu'on mangeait dans le coin de la rue. On se posait pas trop de questions. L'effort qualitatif est arrivé depuis quelques années. Et là, on est vraiment dans une tendance tout à fait surprenante. Et vous êtes la preuve, d'ailleurs, Emmanuel Cottet, que on n'a pas besoin d'être italien. On n'a pas besoin non plus d'avoir son restaurant au cœur de Paris pour faire une pizza proche de la perfection. Où êtes-vous ?
Alors, on est à Saint-Germain-les-Corbeilles dans l'Essonne.
Où ça ?
Saint-Germain-les-Corbeilles, ouais.
9-1, c'est ça ?
Ouais, dans 9-1.
Et dans la zone industrielle.
Il faut bien connaître. Alessandra, quand on a débarqué là la première fois, on avait eu ce petit bouche à oreille qui nous avait chatouillé les écoutilles. On est quand même arrivé au cœur d'une zone commerciale et on a connu paysage un peu plus romantique.
Glamour, ouais.
Pour déguster une bonne pizza, on peut le dire quand même ?
Absolument, oui. C'était pas une très bonne mise en bouche, tout de suite.
Comment vous vous êtes retrouvé dans la pizza, Emmanuel Cottet ?
Un petit peu par hasard, entre guillemets, j'étais un gros passionné de cuisine et j'étais dans la finance auparavant et je commençais à devenir un peu dingue derrière mon bureau et j'ai voulu suivre une certaine logique familiale qui avait fait un peu de restauration pendant quelques années et du coup je me suis fait une formation, déjà une première formation à Paris dans une école de pizzaïolo qui a été une belle révélation parce que j'ai compris le monde qu'il y avait derrière, voilà. C'est une petite porte d'entrée comme ça dans le monde de la pizza et j'ai trouvé ça juste fabuleux et voir la complexité qu'il pouvait y avoir derrière ce métier qui pour le coup restait à la portée d'un néophyte parce que pas encore encadré vraiment très très pointu là-dessus donc et pas de CAP, pas de diplôme, pas de choses comme ça. Donc du coup c'était une porte d'entrée un peu plus facile et je me suis passionné pour la fermentation, pour la farine, pour tous ces éléments qui passaient vraiment en second plan à l'époque sur la qualité de la pizza quoi.
Et vous êtes vraiment allé dans les détails, vous avez fait beaucoup de voyages en Italie pour vous intéresser à la fermentation de la pâte, à la qualité des produits de la garniture, à la cuisson. Alors sans plus tarder, décrivons cette pizza, pourquoi est-elle aussi bonne ? Pourquoi suscite-t-elle autant d'émotions ? On entendait Alain Cirelli dans l'extrait qui disait on n'a pas affaire à une vraie napolitaine, mais à une pizza qui est quand même tout à fait exceptionnelle. Comment vous pourriez définir en trois mots votre pizza à nos auditeurs ?
Alors, on est sur une farine de meule, meule à la pierre. Donc l'intérêt, c'est aussi bien nutritionnel que gustatif, c'est-à-dire qu'on garde le son du blé dans la pâte.
Donc elle est semi-intégrale.
Semi-complète.
Semi-intégrale. C'est ça.
Ouais. Et ça apporte vraiment en termes de goût et ça apporte énormément en termes de nutrition parce qu'on garde les sels minéraux, les vitamines et tout l'intérêt en fait du son du blé.
On peut ajouter qu'elle est biologique.
Elle est en agriculture raisonnée. On est en agriculture raisonnée. Il y a une partie qui est en bio dans le moulin Qualia, mais qui est pas encore meulée à la pierre. Donc, j'ai pas encore, cet élément-là. Et derrière, le travail de la farine, il y a une fermentation lente. On est entre 4 à 6 jours.
4 à 6 jours de fermentation.
Pourquoi ? C'est que la fermentation, elle déconstruit le réseau glutinique. Globalement, ce que ça veut dire, pour vulgariser le propos, c'est qu'on prédigère le gluten. Et donc, vous allez avoir une pizza qui est ultra digeste et qui, du coup, ne vous gâche pas le reste de la journée.
Qui
ne
vous reste pas sur l'estomac à 4 heures, c'est ça ?
C'est exactement aussi, ça.
Il n'y a pas un dance floor dans votre ventre, mais ça se passe plutôt bien. Quoi.
Vous avez le droit de faire la sieste, mais ce ne sera pas de ma responsabilité. C'est ça. Ça, c'est une certitude.
Une pizza, c'est évidemment une pâte bien fermentée, on l'a vu, noblement fermentée, mais c'est également une garniture. Et là,
c'est des ingrédients.
J'ai envie de dire perfectionnisme absolument éblouissant en termes de sourcing de produits.
Ah oui, absolument. Alessandra. C'est aussi bien, surtout dans les produits italiens, j'étais quand même assez vraiment bluffée parce que les charcuteries, les fromages, tout même beaucoup. La tomate, elle était très bonne. L'huile d'olive, il ne s'arrête devant rien, Emmanuel.
Prenons juste la margarita. Ouais. Définition de la margarita en un mot, Alessandra.
La margarita, c'est la pizza, donc avec tomate, mozzarella, basilic, huile d'olive.
Et ça donne le drapeau italien.
Le drapeau italien.
C'est-à-dire les couleurs
vert, blanc, rouge.
C'est ça, drapeau italien. La margarita qui existe évidemment chez vous, c'est un peu le maître étalon dans la pizza.
Bien sûr.
Vous nous la décrivez en un mot en termes de tomates et de produits.
Donc la tomate d'Emilie-Romagne, on travaille avec des gens qui récoltent la tomate une fois par an. Il y a à peine 2 heures entre le moment où on travaille la tomate et où... Enfin, on la récolte et on la travaille. Pour la mozza, il s'avère que je travaille avec l'Arriva Bianca pour la mozzarella di bufala. Notamment.
Donc là, le même plaisir.
Bah oui, on en parlait tout à l'heure. C'est une surprise.
Je l'ai découvert la semaine dernière, justement, sur les réseaux sociaux. Mais globalement, voilà, c'est magnifique et effectivement, c'est un produit de dingue et c'est toujours un plaisir de travailler des produits comme ça parce que c'est juste exceptionnel et que ça devient une drogue, quoi, clairement. Quoi.
Précisons quand même que vous assurez également une cuisson au feu de bois.
Tout à fait, oui.
C'est important pour vous, le feu de bois ?
Le feu de bois, j'avoue que concrètement, si on cuit comme les Napolitains extrêmement fort, c'est hyper important. Parce que pour le coup, c'est difficile d'aller... Enfin, maintenant, on peut trouver quelques fours électriques qui vont très très haut. Mais dans notre cas, ça rajoute un peu de glamour.
Ça fait partie de la mythologie ?
Ouais, tout à fait. On est d'accord.
Et le résultat, c'est une pâte, effectivement, alors qui n'est pas napolitaine au sens où c'est pas une grosse pâte à pain boursouflée.
Ni fondante, moelleuse, comme elle peut être un peu plus mouillée, la pâte de la napolitaine.
On est à la fois craquant et...
Craquant et léger et souple aussi en même temps. Donc le cornichon, le trottoir n'est pas aussi haut, mais la garniture, elle est très très bien équilibrée. Il n'y en a pas trop, ni trop peu. La tomate, elle se tient bien à la pâte. Et c'est vrai, la tomate, d'ailleurs, la sauce était un tout petit peu confite, légèrement compotée.
Et quel goût, cette tomate. Non, mais c'était vraiment merveilleux. Combien vous la vendez, votre margarita ?
On est à 12 euros.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui la trouvent chère ?
Faut mettre en parallèle avec quelle autre pizza
trop chère. Je me fais l'avocat du diable parce
c'est
que
clair.
Je suis convaincu qu'elle n'est pas trop chère. Mais les gens ont malheureusement l'habitude de manger des pizzas à 8, 9 euros. Là, il y a des produits exceptionnels de bout en bout et c'est une pizza qui prend du temps. Je veux dire, 3 à 6 jours de fermentation pour la pâte,
on
ne fait pas les choses à la légère.
Ah ouais, on est d'accord. Non, mais c'est vrai que quand on met bout à bout vraiment les différences qu'on a sur chaque produit, chaque élément, ne serait-ce que déjà la valeur des hommes qui la travaillent, parce que moi je suis pas au fourneau tout le temps, autant sur les parties de test et de conception, j'y passe beaucoup de temps, autant j'ai une équipe de folie qui est là et qui travaille la pizza, et c'est clair que là-dessus, c'est des gens de qualité, donc il y a toute une chaîne de qualité qui se fait et qui fait que les choses ont un prix.
Mais est-ce qu'on a le droit de révéler, vous nous l'avez dit je crois, que depuis quelques années, vous ne vous payez pas beaucoup pour
assurer
la qualité de votre pizza.
Ouais, clairement, c'est beaucoup d'efforts. Ça fait 4 ans maintenant qu'on est ouvert, mais c'est vrai que on a fait énormément d'efforts. J'ai toujours privilégié mes gars et le confort qu'on puisse avoir dans mon restaurant, parce que c'est une aventure humaine avant tout. Voilà, j'essaye de faire pour que ça se passe bien maintenant. Voilà.
Bravo, un véritable coup de foudre pour la pizza signée Emmanuel Cottet à l'Atelier Pizza. Ça vous donne envie d'y aller ou pas, les amis ? Déborah, vous connaissiez Arnaud ?
Pas du tout, mais...
Vous allez y aller ?
Moi, j'ai de la famille dans le 9-1, donc ça tombe bien.
9-1, absolument. Vous nous rappelez l'adresse de l'Atelier Pizza ?
Ouais, c'est 11 avenue de la Pointe Ringale à Saint-Germain-les-Corbeilles. On est sortie 28 sur la francilienne, la N104.
Merci beaucoup, Emmanuel Cottet. On finit avec un petit coup de soleil au Baléares.
On va déguster.
De la Campanie, on passe à Ibiza avec vous, Déborah Dupont.
Mais tout à fait. Alors on est d'accord que Ibiza, dans notre imaginaire, on voit plutôt des fêtards sur de la musique électro.
Oui, c'est vrai.
Donc la gastronomie, ça nous paraît très très éloigné quand même de cette île.
Et pourtant,
très belle découverte avec un livre paru au mois de mars aux éditions de La Martinière qui s'appelle Ibiza entre terre et mer, sans recette ensoleillée. Écrit par Françoise Pialou. Donc Françoise Pialou, le nom vous dit peut-être quelque chose. Elle a été rédactrice en chef du magazine Maison Côté Sud pendant 25 ans. Et en fait, elle est tombée amoureuse de cette île au point d'y ouvrir une finca. Donc une finca, c'est-à-dire un hôtel familial.
À l'origine, une finca, en fait, c'est une ferme. Hein,
une ferme.
C'est ça.
Voilà, qui s'appelle les terrasses. Mmh. Et elle compile ici donc les recettes à la fois donc traditionnelles effectivement des Baléares, mais aussi des recettes inspirées de ses voyages. On y apprend par exemple qu'elle y sert un couscous traditionnel le mardi, où elle roule vraiment la semoule et qu'il y a les gens qui accourent de l'île entière pour venir déguster ce couscous.
Et un couscous pas forcément des Baléares, enfin on parle d'un couscous nord-africain.
Là on parle d'un couscous nord-africain. Mmh. Donc il y a une vraie histoire en fait, une histoire d'hommes et de femmes hein, dans ce livre qui m'a vraiment touchée. Et j'ai craqué. Alors, pour plusieurs recettes, je dois dire, j'avais beaucoup trop de choix. Parce que beaucoup de recettes autour des amandes, autour des figues, autour du poulpe, autour des agrumes.
Tous ces produits méditerranéens.
Tous ces produits, exactement. Ça fleure bon le soleil et la mer Méditerranée. Et j'ai craqué pour une recette qui utilise, en fait, une viennoiserie locale qui s'appelle Lanzaimad. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement, qui est une sorte de croissant local.
Oui,
et l'idée, en fait, exactement. Et l'idée, c'est d'utiliser les restes. Donc, en fait, si vous goûtez, ça doit vous rappeler à la fois le pudding, le diplomate.
C'est un pudding, oui. Voilà. C'est bon, hein.
Ouais.
Donc, la recette est très, très simple. C'est vraiment une recette pour utiliser les restes. Donc, vous faites bouillir 1 litre de lait demi-écrémé avec un bâton de cannelle. Un citron jaune bio, du zeste en fait de citron jaune bio. Elle précise bien qu'il faut monter lentement à ébullition.
Mmh.
Voilà. Donc les arômes se diffusent. Une fois que c'est tiède, vous rajoutez donc vos croissants coupés en petits morceaux.
Donc là, on utilise des croissants bien français.
Ah là, j'ai pris du croissant bien français rassis. Parce que
mais c'est ça qui est pratique. Quand on en achète un peu trop, on a les yeux plus gros que le ventre en général. Il reste tout dur dans le sachet du boulanger.
Mais je pense qu'on peut tout à fait le faire avec de la brioche, avec même du pain. Enfin, on est sur une base de pain perdu.
Mm-hmm.
Ensuite, vous rajoutez 8 œufs battus, un peu de sucre. Il y a 200 grammes de sucre. Et vous laissez un peu reposer. Pendant ce temps-là, vous faites un caramel. Donc, dans un plat, vous versez la préparation et ensuite vous enfournez 50 minutes au bain-marie. Et ça se mange froid.
C'est bon.
C'est pas mal. Hein,
et ça a la tête d'un pudding qui fait à peu près 5 cm d'épaisseur.
Alors, je l'ai fait dans un moule à tarte tatin parce que c'était plus simple pour le caramel. C'est un peu lourd à transporter.
Il est très beau votre moule en fonte d'ailleurs.
Merci.
Je le veux bien, non ?
Non, je le garde celui-là. Visuellement, ça ressemble aussi à la tortilla. D'ailleurs, vous avez cru au début de l'émission que c'était une recette salée.
C'est chic, elle nous a apporté une tortilla. Et en fait, ce pudding, il est fondant et en même temps, il est un peu charnu. Il y a de la matière en bouche.
Et il est parfumé, effectivement. On sent bien la cannelle. Donc, franchement, une recette que je recommande. Et puis, mais ça, c'est spécialement un petit clin d'œil pour notre réalisatrice Laurane qui m'avait dit qu'elle elle avait bien craqué pour la recette à base de rhubarbe et de cerises.
C'est Laurane Thomas, elle est fan de rhubarbe en fait.
Voilà, et donc
la semaine dernière, elle m'a offert sa confiture de rhubarbe qu'elle fait chaque année.
Voilà,
j'ai pas encore goûté.
Et donc nous dégusterons hors antenne à la fin de l'émission un crumble de cerises à la rhubarbe. Et les deux recettes sont bien évidemment sur le site de France Inter à la rubrique On va déguster.
Absolument, deux recettes. Je m'aventurerai pas à vous redemander le nom de ce pudding si.
Grexonera.
Grexonera, en tout cas, on retrouve l'orthographe sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci mille fois. Vous nous rappelez juste les références du livre, Déborah ?
Ibiza entre terre et mer, sans recette ensoleillée, de Françoise Pialou aux éditions de La Martinière.
Et bravo pour ce pudding, c'est décidément très bon. Bravo aussi, Alessandra, pour ce cake à la mozzarella qu'on peut retrouver dans La Mozzarella, 10 façons de la préparer aux éditions de L'Épure. Un très joyeux petit bouquet. On peut trouver aussi une recette, tiens, de pâtes à la mozzarella, crème de basilic et thon. Ça, c'est intéressant.
Ouais, c'est une pâte de saison. Ce sont des pâtes
froides.
Les pâtes chaudes, mais la sauce froide. Donc, c'est un petit mélange chaud-froid qui est très agréable. Et comme ça, la mozzarella, on peut l'utiliser. Un petit dé mélangé à de la tomate, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et une crème à base de basilic, mascarpone, pignon, parmesan. Je vous garantis, c'est savoureux et délicieux.
Chers auditeurs, la recette est aussi sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci beaucoup Emmanuel Cottet. L'atelier Pizza 11, allez
11 avenue de la Pointe-Ragale ou 11 allée Louis-Tillet, ça dépend GPS
c'est ça.
En cause. Ouais.
À Saint-Germain-les-Corbeilles, dans l'Essonne, pour déguster peut-être bien la meilleure pizza de France. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on ne va pas déguster, malheureusement, mais c'est pour la bonne cause. En effet, dimanche prochain à 11h, émission spéciale à l'occasion de l'entrée de Simone Veil au Panthéon, une émission animée par Ali Badou. Et nous, on se retrouve donc dans 15 jours, le dimanche 8 juillet, pour une première émission de notre série d'été. Au menu, les vins rosés. Merci à tous, au dimanche 8 juillet, si vous avez encore faim.